Que faire quand l'envie de réussir engendre le malaise ? Alors que les évaluations nationales des classes de CP, CE1, 6e et 2e se déroulent cette semaine, nous vous proposons ce soir une réflexion sur l'évaluation et ses effets sur nos enfants. Une vraie question éducative. Alors, qui peut dire qu'il ne souhaite pas à son enfant de réussir à l'école, déjà, ou dans une discipline sportive ou artistique, voilà qui apparaît comme hautement désirable. Certains adolescents seront, eux, attentifs à leur popularité dans un groupe de pairs, d'autant qu'avec les réseaux, elle est quantifiable, à leur apparence, à leur capacité à plaire. Et ces préoccupations qui peuvent se cumuler provoquent parfois de l'anxiété. En tout cas, elles la provoquent chez un nombre croissant de jeunes gens, nous disent les pédopsychiatres, à un stress qui peut conduire, dans certains cas extrêmes, à la dépression et à une phobie scolaire. Et si parfois ces jeunes sont angoissés par leur entourage, les raisons de leur malaise demeurent souvent moins explicables et les réponses difficiles à trouver à une époque où l'on s'interroge davantage sur le sens de la réussite, mais dans laquelle on se note à tout bout de champ. Bonsoir Laurent Pinel.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, chef de service de l'unité de soins intensifs pédopsychiatriques à la clinique de la Fondation Santé des étudiants de France de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Avec nous et à distance, Charles Hadji, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes agrégé de philosophie, professeur honoraire en sciences de l'éducation à l'université Grenoble-Alpes et auteur d'un livre qui m'a énormément intéressé, Le défi d'une évaluation à visage humain, dépasser les limites de la société de la performance, publié en 2021 chez ESF. Dans ce studio avec nous, Cécile Morzadec, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'espagnol en lycée dans le Val d'Oise, vous êtes prof principale, et puis vous êtes formatrice académique sur l'évaluation et les pédagogies coopératives. Vous avez même contribué à monter une classe coopérative, ce qui met en question l'évaluation. Et puis, je dois indiquer que votre lycée se situe dans l'académie de Versailles. On entendra également une autre philosophe, Isabelle Queval. Elle est ex-sportive de haut niveau. Alors, on l'entendra plutôt dans la seconde partie de l'émission. Elle propose une réflexion sur le sport qui peut tout de suite nous inspirer.
L'un des attraits médiatiques spectaculaires au fond du sport, c'est de pouvoir conjuguer à la fois un idéal égalitaire qui est celui de la ligne de départ, comme lorsque l'on dit tout le monde est égal derrière la ligne de départ, et finalement une réussite proprement aristocratique qui est celle de la ligne d'arrivée. Seul le meilleur gagne. Au fond, cette méritocratie n'est donc que très partielle et il y a évidemment une injustice qui ramène par ailleurs à la différence entre les êtres qui est naturelle.
Alors, ce qui vaut pour le sport, vaut-il pour l'école et pour toute la vie, puisqu'on s'évalue beaucoup sur les réseaux sociaux, on évalue les autres. Il y a une réussite, une seule peut-être, elle n'est pas donnée à tout le monde. Charles Hadji, que vous inspire cette réflexion de votre collègue philosophe sur le sport ?
Elle me pose des questions. Elle m'invite à réfléchir au moins à 3 questions. La première étant de savoir si le sport peut être comparé valablement à une activité d'apprentissage scolaire. Deuxième question qui s'enracine dans la première. Les sujets, c'est-à-dire soit les sujets apprenants à l'école ou à l'université et les sportifs, peuvent-ils éprouver des impressions, des sentiments équivalents, avoir un vécu équivalent? Et puis la troisième question qui en quelque sorte subsume les deux autres et que vous avez vous-même souligné, qu'est-ce que réussir? Qu'est-ce que réussir? Et peut-on penser la réussite à travers la notion de mérite? Est-ce que l'idéal méritocratique n'est pas un idéal trompeur? Pour quelles raisons? Comment pourrait-on relier un idéal égalitaire et un idéal aristocratique, finalement, de la réussite sur la ligne d'arrivée? Toutes ces questions se posent quand on réfléchit sur l'évaluation.
Voilà, une
il resterait...
Pardon, on est à distance, alors c'est difficile quand je pense que vous avez terminé votre phrase, oui. Charles Hadji. Je vous laisse terminer, évidemment.
Il resterait à tenter de dire ce que signifie exactement évaluer, puisque tout est en jeu dès la définition de l'évaluation.
Ça pose question à presque tous les évaluateurs, ça pose question à ceux qui pensent l'école, et pourtant, du côté des personnes qui se font évaluer, les choses paraissent bizarrement parfois beaucoup plus claires, à savoir qu'on a des notes, on a des chiffres, et ça nous dit quelque chose, et parfois ça fait mal, et ça peut conduire jusqu'à votre cabinet, Laurent Pinel, vous qui êtes psychiatre, et qui avez noté une recrudescence de ces angoisses de performance chez les enfants et les ados qui viennent vous voir.
Ah oui, en effet, nous avons, alors je partage ça avec beaucoup de mes collègues et j'ajouterai avec les professionnels de l'éducation nationale aussi, puisque dans l'établissement où je travaille, on a des liens très étroits avec l'éducation nationale, les écoles alentours. Et c'est vrai que le sentiment qu'on peut avoir, c'est que ces manifestations anxieuses, ce refus scolaire anxieux, m'a pris énormément d'ampleur ces dernières années. Alors évidemment, à l'aune, enfin pendant toute cette période de Covid, de crise sanitaire, on a été vraiment très impacté et peut-être un peu en décalage avec le phénomène du confinement, puisque les difficultés psychologiques et psychiatriques des jeunes qu'on a accueillis se sont fait plus intenses et plus présentes, je dirais quelques mois après le début du confinement. Mais en effet, il y a quelque chose de d'assez saisissant, et je dirais bien depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que le Covid fait un peu écran, on est amené à dire bon bah voilà, c'est la crise sanitaire, les jeunes se retrouvent en difficulté parce qu'ils ont été comme ça enfermés ou soumis à des couvre-feux, mais en réalité ça fait bien plus longtemps que ça dure. Et je dirais que je vais traduire ça en chiffres, on parle d'évaluation aujourd'hui, mais c'est aussi un indicateur assez puissant, que sont les passages à l'acte suicidaire qui sont répertoriés aux urgences, et dans les urgences psychiatriques ou d'ailleurs somatiques, qui augmentent de manière continue. Depuis, je dirais, le début de la décennie 2010, avec quelque chose d'assez explosif là, pendant le temps de la crise sanitaire.
Que vous disent les adolescents et les adolescentes ces questions de notes, de jugement, d'évaluation, Laurent Pinel?
Alors, il est effectivement question de sa propre valeur dans ces échanges que l'on peut avoir avec ces jeunes qui sont épuisés. Et finalement qui n'arrive pas à se projeter dans un avenir, et je dirais même au-delà de quelques heures d'un avenir qu'il pourrait être amené à construire, hein, on en parlera sans doute, Parcoursup, tout ça, mais épuisé et je dirais peu sûr d'eux-mêmes quant à l'idée d'affronter la suite et la construction de leur projet personnel. Et je dirais aussi dans une quête, puisqu'on parle d'évaluation, une quête, je dirais, un rapport à l'évaluation extrême jusqu'à venir signifier quelque chose d'eux-mêmes et de leur propre valeur dans la vie. Être ou non une bonne personne, c'est être rattaché à avoir ou non des bonnes notes. Et peut-être qu'on parlera aussi de la question pondérale, puisque j'accueille dans mon unité et en consultation des jeunes qui ont des problématiques de troubles des conduites alimentaires. Là encore, il y a une évaluation de sa propre valeur à l'échelle de du poids et de la perte pondérale qu'on calcule et qu'on mesure très régulièrement.
Laurent Pinel, on parle d'élèves qui ont des bonnes notes, on parle de jeunes filles en particulier, puisque oui, les troubles du comportement alimentaire sont assez largement féminins, qui vont se juger à leur poids, allant dans des extrémités en faisant descendre le chiffre. Est-ce que chez ces personnes, il y a une tentative aussi de prendre le pouvoir sur sur le chiffre, en fait, sur ce qui les évalue en étant extrêmement bon élève au prix d'un stress, si on revient aux notes, extrêmement important pour les troubles alimentaires? On sait que la question est extrêmement complexe.
Oui, alors c'est une prise de pouvoir quant à une dépendance que nous avons tous, c'est celle de l'alimentation. Et après, un assujettissement total aux chiffres.
Est-ce que ça peut valoir pour les notes ?
Et cet assujettissement, et généralement, ce sont effectivement des choses qui sont assez reliées. En tous les cas, les jeunes filles et jeunes femmes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires ont un rapport à l'évaluation scolaire extrêmement vif et extrêmement intense. Et de la même manière, perdre du poids et faire baisser la valeur pondérale est généralement très lié à avoir des bons résultats scolaires et des notes élevées, je dirais, voire très élevées, et que une chute, ne serait-ce que partielle, des valeurs et des résultats scolaires viendrait, je dirais, fragiliser énormément.
Alors on va s'intéresser à ce qui peut se passer dans une classe. Là, on a parlé d'enfants qui viennent consulter, d'adolescents. Hein. Cécile Morzadec, au lycée, ces adolescents qui sont dans vos classes, quelle importance attachent-ils aux notes ? Est-ce que vous avez noté une évolution au fil du temps ?
Alors là, en ce moment, mes collègues sont tous d'accord pour dire que depuis le contrôle continu du nouveau bac, depuis la réforme du baccalauréat, les élèves sont extrêmement stressés par les notes, puisque depuis la réforme du lycée, en fait, toutes les notes comptent pour Parcoursup. Et donc ça change un petit peu la relation que les élèves avaient déjà aux notes auparavant, puisque maintenant il y a une grosse pression sur chaque note qui est obtenue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là où autrefois, nous, en tant que prof, on pouvait accompagner les élèves tout au long d'une année de terminale jusqu'au bac, qui un peu allait délivrer un examen final qui allait avoir une valeur certificative. Donc nous, en tant que professeurs, on pouvait se vivre vraiment, enfin en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vivais personnellement, comme accompagnateur d'un élève dans son parcours d'apprentissage. Et maintenant, ça, c'est quelque chose qui est plus possible, puisque chaque note compte. Et donc, en fait, le professeur est vu par l'élève comme quelqu'un qui l'évalue en permanence. C'est qui en fait a vraiment un rôle à jouer dans son avenir professionnel, enfin universitaire et professionnel. Et ça change vraiment et la relation que les élèves ont aux notes et la relation aussi que les élèves ont aux enseignants. Donc en fait, c'est en train de générer une sorte de climat très tendu dans les établissements scolaires, puisqu'en fait, ça a un peu modifié le lien prof-élève et ça a crispé les choses. Donc on entend beaucoup en salle des profs, des profs qui disent j'ai encore reçu un message des parents pour me demander de remonter telle note, ou un message d'un élève qui n'est pas content de la note qu'il a eue, etc. Et donc il y a toute une question de...
Ce qui me surprend, c'est que l'évaluation par contrôle continu, en fait, elle est très courante à travers le monde. C'est le cas dans plein d'autres pays assez comparables aux nôtres, sans que le stress soit aussi important pour des élèves qui vont par ailleurs, pour la plupart, décrocher leur bac. Mais c'est pas le seul enjeu, évidemment. Il y a la sélection Parcoursup.
Pour en avoir parlé avec des collègues, parce que je fais des projets européens, donc j'ai la chance de pouvoir discuter avec des collègues européens, mes collègues belges et mes collègues espagnols disent la même chose que nous. Mmh. À savoir que là-bas, il y a aussi une forme de contrôle continu, mais qui existe depuis plus longtemps qu'en France. Et ils sont tout à fait d'accord avec moi sur le fait que les élèves sont de plus en plus stressés, puisque chez eux, il y a aussi des examens chaque année pour valider une année scolaire. Donc ça existe au moins dans deux autres pays européens. Donc je pense qu'on n'est pas les seuls, effectivement. On pourrait aussi dire qu'auparavant, avant Parcoursup, il y avait déjà un poids de chaque note, il y avait une forme de contrôle continu qui disait pas son nom, puisque de toute façon, tout ce qui était, par exemple, tout ce qui était Parcoursup rentrait, en fait, ce qui était pris en compte, c'était les notes, déjà. Donc finalement, la réforme du bac devrait pas avoir modifié vraiment la donne. Mais je pense que c'est peut-être symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est vraiment établi que le contrôle continu est ce qui compte. En début d'année, aux parents d'élèves, on va leur donner le chiffre des 40% de contrôle continu. Donc c'est des choses qu'ils entendent et donc ça a modifié ce rapport à la note, en tout cas à partir de la première. En première et terminale. En seconde, moi je suis prof principale de seconde, c'est un peu différent, mais malgré tout, il y a la question de l'orientation qui se joue à la fin de l'année de seconde et donc les notes comptent aussi d'une autre façon.
Et puis il y a la question de la diffusion, de l'information, de la note. En fait, ce sont les outils d'aujourd'hui que tous les parents d'élèves du secondaire connaissent. On va faire référence à un logiciel très connu qui se présente sous forme d'application pour beaucoup. Je ne vais pas dire son nom, on va l'entendre. Et c'est Mathieu qui est professeur des écoles et directeur. Donc, avant que les élèves ne soient notés comme cela, qui partage son sentiment sur l'évaluation à partir du collège.
Les notes entrent vraiment dans la vie des élèves à l'entrée en sixième, avec un peu ce que moi j'appelle l'application du diable, donc Pronote. Très vite, tout le travail en fait qui a été fait jusqu'au CM2 est balayé quasiment une semaine chez certains élèves, voire beaucoup d'élèves d'ailleurs, hein, puisque du coup la note rentre vite en ligne de compte en fait comme étant la seule variable chiffrée en fait qui peut les positionner sur une évaluation. D'ailleurs, souvent, ils parlent plus d'évaluation, hein, mais d'interrogation ou de contrôle. Mais on s'éloigne vite de la notion d'évaluation qu'on connaissait et qu'on fait encore, du coup, nous à l'école primaire. Pronote permet aussi, par rapport à ce que nous, on a un peu connu comme élève, ou que moi, j'ai pu connaître à l'époque, c'est que on avait une note, mais elle était souvent associée à la copie. C'est-à-dire qu'on découvrait notre note en même temps que la copie. Là, avec Pronote, souvent, les élèves ont accès à la note dès qu'elle a été saisie sur Pronote par l'enseignant. Voilà, 19h30, 20h, sur leur groupe Snapchat de classe, parce que souvent ça va de pair aussi avec l'entrée en sixième, les groupes de classe. T'as vu la note de maths, et puis je me connecte sur Pronote, je vais voir en direct, et puis Pronote permet aussi d'avoir la note la plus haute, d'avoir la note la plus basse, d'avoir la moyenne de la classe. On est quand même dans quelque chose qui peut être angoissant pour certains élèves et qui a un côté malsain quand même, dans l'abord en tout cas de l'évaluation. Encore une fois, même si l'enfant, lui, va avoir sa note, et qui va se dire j'ai eu 12 sur 20 en maths, et que le parent derrière va regarder en disant bah, t'as eu 12 sur 20 en maths, alors c'est bien, c'est pas bien, en fonction de nos critères, en fonction de notre curseur, mais le problème c'est qu'on parle dans le vent, c'est-à-dire que personne n'a la copie sous les yeux, personne voit justement qu'est-ce qui a été bien fait, réussi, pas réussi, donc on parle effectivement que sur une valeur chiffrée. Quand je vois mes anciens CM2 qui sont devenus des sixièmes, très rapidement, eux-mêmes se rattachent aux notes, c'est-à-dire... Ah, j'ai eu une interro de maths, j'ai eu 12, mais très vite, il me parle du copain, ouais, il s'est complètement planté, il a eu 4. Ben, ils existent quasiment presque comme si eux-mêmes devenaient une note, en fait, devenaient une valeur chiffrée. Et quand on peut aller à des réunions parents-professeurs ou discuter avec des collègues du second degré et qu'on fait le point en début d'année de sixième sur où ils en sont, nos élèves, ben, très vite, en fait, l'enseignant ou l'enseignante qu'on a en face de nous va regarder le carnet de notes au lieu de nous parler de... finalement plus de l'attitude de l'élève ou plus de l'appétence qu'il pourra avoir par exemple pour les mathématiques ou d'autres, ou sur la participation orale par exemple.
Charles Adji, je voulais vous faire réagir au propos de Mathieu qui m'a demandé de ne pas donner son nom de famille, qui est professeur et directeur d'école, sur à la fois la manière dont la note circule comme une information chiffrée qu'on peut connaître presque de manière instantanée, enfin dès que le professeur la met sur un logiciel, et en plus à n'importe quelle heure, même le week-end ou le soir. Et puis, la façon dont cette note arrive seule et finit par, et peut-être que d'ailleurs le phénomène est ancien, cacher tout le reste. Est-ce que la note cache la forêt de toutes les réussites et difficultés des élèves?
Oui, alors en tout cas, la note, trop souvent, ne traduit pas ce que vous désignez comme une forêt, c'est-à-dire l'état et le niveau réel des connaissances, des compétences, etc., des élèves. Alors, il faudrait dire tout de suite que l'évaluation ne se réduit jamais à la notation. La notation en est une dimension sociale et socialement importante, mais l'évaluation ne se réduit pas à cela. Alors, ce que je retiens de l'intervention que vous venez de nous donner le plaisir d'entendre, c'est que on peut reprocher à des logiciels tels que Pronote de donner trop de visibilité aux résultats des élèves. Or, précisément, les travaux de psychologie sociale qui se sont portés sur les problèmes d'évaluation ont montré que l'anxiété de performance pouvait être nourrie par la pression évaluative dans un climat de comparaison sociale. C'est la visibilité des classements dans un climat de concurrence et des classements dans une situation de comparaison forcée, c'est cette visibilité qui produit de la peur, pouvant déboucher sur de l'anxiété, voire sur de l'angoisse. Alors, ce phénomène de stress qui a été parfaitement décrit par notre collègue psychiatre, ce phénomène de stress a été décrit depuis longtemps au niveau scolaire. On peut penser aux travaux de Madame Georges, Gisèle Georges, qui a décrit les enfants malades du stress. Et il faudrait se demander, mais pourquoi, d'une façon générale, les enfants sont aussi souvent et autant malades du stress dans les établissements scolaires. Je dirais, pour ne pas être trop long sur ce point-là, qu'on sera stressé, les enfants, les apprenants et les sportifs, peut-être, seront stressés aussi longtemps qu'il y aura des évaluations certificatives. Pour les sportifs, il n'y a que des évaluations certificatives, dans une logique de concours. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur cette différence entre logique de concours et logique d'examen. Et je dirais qu'on sera d'autant plus stressé que l'évaluation scolaire fonctionne en privilégiant ce que je désigne comme le couple infernal classement-sélection.
Parce que l'évaluation pourrait peut-être formative pour progresser. C'est une caractéristique de l'évaluation quand on y réfléchit, pour ceux qui l'analysent aussi comme vous, Charles Hadji, la dimension publique des notes, mais aussi des likes, finalement, puisqu'on parlait d'applications, d'informations, d'instantanéité. Laurent Pinel, tout ça, c'est de l'information qui se foit, qui est instantanée parfois, mais aussi publique. En tout cas, que d'autres gens, que ceux qui sont évalués, peuvent voir, à laquelle on se prête, parfois volontairement, parfois pas, ou c'est un jeu que tout le monde
joue. Absolument. Alors, en tous les cas, pour revenir à Pronote, ce que je voulais aussi rajouter, c'est ce que vous disiez vous-même, c'est-à-dire l'instantanéité de la publication des résultats. Et cette instantanéité, elle vaut aussi pour les parents, c'est-à-dire que le jeune élève n'a même pas le temps de se dire « je vais annoncer une bonne note à mes parents, ça va être super ». Ou au contraire, oh là là, j'ai eu une cartouche, il va falloir que je prenne le temps, comment je vais faire pour leur annoncer. Il sait très bien qu'en arrivant à la maison, ses parents, ils seront au courant des résultats. Comme si tout ça échappait au contrôle du jeune homme ou de la jeune fille qui a passé l'examen. Donc, évidemment, cette instantanéité, en plus, ce que disait l'intervenant dans le morceau tout à l'heure, c'est que tout ça est paru immédiatement sur Snapchat. Donc, ça veut dire que son résultat est même publié.
Ou WhatsApp, ou des groupes de discussion.
Il est publié et en dehors même de Pronote. C'est-à-dire que Pronote, effectivement, assure une certaine confidentialité, puisqu'il y a la plus mauvaise note, la meilleure, la moyenne. Donc, déjà, ce qui place l'élève dans une fourchette de son positionnement en classe, donc le met en position de se dire, enfin d'évaluer là où il en est lui-même, et puis en plus il le publie lui-même très rapidement, il va montrer aux autres élèves ou en tout cas ceux qui le font, généralement c'est ceux qui ont plutôt des bonnes notes, ceux qui ne le font pas, tout le monde va se poser la question de la note qu'il a eue. Donc en effet, cette évaluation, elle est publiée sur les réseaux sociaux. Et je dirais que cette évaluation, en dehors même de la valeur élève, elle se traduit aussi au niveau des réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure de likes, mais aussi au nombre d'amis qu'on peut accueillir sur son Facebook ou sur son Snapchat.
Je crois que c'est plutôt TikTok ou peut-être Instagram.
Plus mais, ça maintenant.
Mais on a connu Facebook, on voit bien de quoi vous parlez.
Voilà. Et effectivement, j'en parlais encore aujourd'hui de TikTok, avec cette inquiétude permanente de savoir si on va être visible ou pas et si les autres vont penser à nous.
Vous le disiez tout doucement, vous parliez encore aujourd'hui de TikTok.
Avec une jeune patiente qui m'expliquait très précisément ce qu'il en était et comment elle l'utilisait.
Donc vous connaissez bien les pratiques des adolescents d'aujourd'hui. Évidemment, Cécile Morzadec, on se demande pourquoi il n'y a pas de manière d'utiliser Pronote, allez, ça y est, je prononce le nom, mais je sais qu'il y a aussi d'autres applications qui seraient peut-être un peu plus pensées par les professeurs ou par l'établissement, tout simplement, pour rendre, pas forcément plus douce, mais donner au moins un cadre logique à la manière d'évaluer, à la manière aussi de diffuser les notes, de comprendre quand elles arrivent et pourquoi.
Alors, dans mon cas, ça fait depuis 7 ans que j'ai une classe de seconde sans notes. Et donc, en fait, une manière plus douce d'évaluer, on pensait l'avoir trouvée avec cette façon d'évaluer par compétences et sans notes. On a commencé en 2014 parce que, précisément, un collègue de français avait décidé de ne plus mettre de notes. Il ne voulait plus mettre de notes parce qu'il nous disait, j'ai l'impression que ça fait tellement stresser les élèves, en fait, ça les décourage. Et je ne supporte plus, en fait, c'était vraiment de sa part une sorte d'aveu, je ne supporte plus de mettre des mauvaises notes aux élèves et de les voir aussi découragés. Donc, on a commencé un projet de classe sans notes à ce moment-là. Et donc, dans Pronote, en fait, on a tout à fait la possibilité d'évaluer autrement avec des évaluations par compétences. Donc, ça va être 4 niveaux, par exemple, d'acquisition. Et ça paraît comme ça, c'est vrai, plus doux. En fait, il n'y a plus de possibilité de se comparer aux autres. Ça, c'est vrai. À partir du moment où on n'a plus de chiffres, on ne peut plus faire de moyenne, on ne peut plus faire de moyenne de moyenne, et donc on n'a plus de classement. Et assez souvent, en fait, la première réaction des élèves ou des parents, c'est que ça les déstabilise, parce qu'on est dans une telle société de la comparaison, du classement, qu'en fait, les parents nous disent « mais je ne sais plus situer mon enfant ». Si je n'ai plus de moyenne, en fait, comment je fais pour savoir où il se situe? Alors, on essaie de leur expliquer que, du coup, il doit se situer, l'enfant, par rapport au niveau attendu des apprentissages. Donc, si on lui dit que sa maîtrise, elle est insuffisante, eh bien, en fait, il faut qu'il se situe par rapport à un attendu, pas par rapport au reste des élèves de la classe. En réalité, c'est très compliqué pour eux et c'est très déstabilisant. Et donc, finalement, on aboutit à une forme de, quelque chose qui m'interroge vraiment. Comment se fait-il qu'en ayant la possibilité d'évaluer autrement, ces pratiques-là, en fait, ne prennent pas vraiment dans les établissements scolaires. C'est très difficile de les mettre en place, alors encore plus au lycée qu'au collège. Mais depuis la réforme du collège, normalement, on devrait tous évaluer de cette manière-là. On a beaucoup parlé d'évaluation formative, évaluation positive. Normalement, c'est vraiment dans les textes officiels. C'est cette façon-là qu'on devrait utiliser pour évaluer. Et on doit faire le constat, en fait, ça ne prend pas, ça ne se diffuse pas tellement. Mais ça, c'est quelque chose qui me pose question.
Peut-être aussi parce que promettre, entre guillemets, une note, c'est une façon de faire travailler les élèves. Et ce qu'on veut obtenir de la part des élèves, qui sont pas tous hyper stressés non plus, hein, mais c'est bien un travail et une progression. Et la note paraît être un outil pour cela, non?
Alors, c'est ce qu'on appellerait, ce que Paulo Freire appellerait la pédagogie bancaire. C'est-à-dire, en fait, donc, finalement.
Pédagogue brésilien.
Voilà. L'idée, en fait, c'est qu'on travaille pour un salaire qui serait la note. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on essaie d'évaluer autrement, on perd un peu tous ses repères, que ce soit professeur ou élève ou famille. Et finalement, on perd tellement ses repères que l'élève ne sait plus tellement pourquoi il travaille. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on se rend compte que, d'une certaine façon, le sens des apprentissages est complètement perdu dans cette société de l'évaluation permanente, puisque l'élève a le sentiment qu'il travaille pour obtenir un salaire et pas pour apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait désolant pour nous, professeurs, comme pour élèves. Mais on est tous un peu comme pris au piège, en fait, de cette manière d'évaluer permanente. Et c'est très difficile d'en sortir. Voilà. Donc, c'est un peu le constat que je fais au bout de 7 années d'expérimentation. C'est quelque chose qui a du mal à se diffuser dans mon établissement, qui se diffuse peu également dans les collèges avoisinants, même dans les écoles primaires, c'est pas si facile, c'est pas si simple.
Charlotte J.
Sur cette question. Je pense que je relève une très. Ah, j'attends votre question.
Non, j'entendais un léger silence, donc je prolongeais. Allez-y.
Je relève, mais quelquefois je réfléchis un tout petit peu avant. Voilà. Donc, je relève une expression qui me paraît très belle dans ce que vient de dire ma collègue. Nous sommes prise au piège. Quel piège? Le piège, où est le piège? Alors, le problème est que les pratiques décrites d'évaluation plus douce, personnellement, j'aurais tendance à dire, et plus intelligente, ces pratiques-là ne prennent pas. Pour quelle raison? Alors, pour une raison qui me paraît tout à fait, honorable, c'est que nous avons besoin, quand on évalue, on peut avoir besoin de 2 types d'informations. Des informations que je qualifierais d'éclairantes, informations éclairantes sur un niveau, sur une forme de développement, sur les compétences construites, Ceci dans un contexte d'évaluation pédagogique formative. Et on peut avoir besoin d'informations classantes, que j'appelle classantes, dans un contexte qui va être finalement un contexte de certification, il faut dire reçu ou collé, ou dans un contexte de concours. Et ainsi, deux logiques différentes peuvent se superposer, l'une dominant l'autre. La logique du concours, où le problème est de faire la différence entre le dernier reçu, par exemple, à l'agrégation, et le premier collé. La différence est infinitésimale. Hein. Notre collègue Jean Kelevitch aurait parlé de je ne sais quoi, de presque rien. N'empêche que l'un sera pour toute sa vie agrégé, on le met même sur les avis de décès, hein. Et puis l'autre ne sera pas. Alors, dans cette logique de concours, on a besoin d'informations classantes qui permettent de classer. De par son apparence de mesure, la note joue, correspond tout à fait à ce rôle, remplit parfaitement ce rôle. Mais l'évaluation ne se réduit pas à la notation. Dans une autre logique, logique d'aide aux individus, on a besoin d'informations qui éclairent sur l'état de construction des connaissances, des savoirs, des savoir-être, etc., de chacun des élèves. Mais cette logique tend à être, étouffée par la logique du concours dans une société où domine la compétition et la sélection. Et c'est ainsi que l'on arrive à ce que je désigne comme le couple infernal, classement-sélection.
Et ce, dès le collège, malgré des instructions, on l'a bien compris, qui disent le contraire sur la manière d'évaluer les élèves, Charles Hadji, et peut-être que ce paradoxe s'explique parce que finalement c'est tout le système qui est évalué tout le temps. Je parlais en introduction des évaluations nationales. Est-ce que l'école fait mieux ou moins bien qu'avant? Alors, évaluations qui vont concerner certaines classes, CP, 6e, seconde, par exemple, CE1 aussi. Il y a des évaluations et des classements des collèges et des lycées qui sont publiés par la presse, avec ces bons établissements où il faudrait être, en tout cas pour certaines familles. Et puis, l'évaluation du système tout entier, c'est PISA, par exemple. Il y en a d'autres qui est publié tous les 3 ans par l'OCDE. Finalement, la logique d'évaluation, elle dépasse de loin les individus, Charles Hadji.
Oui. Et ceci peut peut-être permettre d'apporter des éléments de réponse à la question finalement qui sous-tend toute votre émission aujourd'hui. En quoi l'évaluation est-elle un facteur particulièrement stressant finalement? Alors, pourquoi l'évaluation produit-elle autant de stress, de maladie finalement, puisqu'on parle des enfants malades de l'angoisse, etc. Quels sont les effets produits par la société d'évaluation sur nos enfants? Mais précisément, c'est parce que nous sommes dans une société d'évaluation que les choses deviennent compliquées. Et s'il fallait résumer en une phrase les effets produits par l'évaluation, je dirais volontiers, le fait d'être noté, évalué, jugé à l'école et dans sa vie, ça devrait produire de la connaissance sur soi, sur son niveau, etc. Et ça en produit, souvent. Il faut être juste avec, l'effet bénéfique de la plupart, peut-être, des évaluations scolaires. Mais ça produit trop souvent de l'anxiété. Pourquoi? Parce que, d'une certaine façon, tout se joue dans la place laissée par les évaluateurs, la place donnée au couple infernal, classement, sélection.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Tu doucement, comme ça. La vie, c'est épatant. Tout doucement, tout doucement, comme ça. La vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous aurez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces jeunes énervés qui ne savent pas aller. N'allez jamais trop vite en amour simplement pour revoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour en deviendra, c'est blottir dans vos bois.
Être et savoir. On parle ce soir de l'évaluation et de ses effets sur les élèves, des adolescents qui parfois saisissent assez mal les objectifs un peu confus, hein, on l'a entendu, des évaluations et finissent par être extrêmement angoissé. On l'a dit avec vous, Laurent Pinel, vous qui êtes psychiatre, extrêmement angoissé par le fait d'être noté, et peut-être pas seulement à l'école, se confondent avec ces chiffres qui diraient ce qu'ils sont. Quand on est face à ce type de jeunes personnes, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors à la fois en tant que thérapeute, vous êtes thérapeute, mais aussi en tant que parent ou professeur, pour calmer ce stress et cette angoisse qui saisit, on l'a entendu, un nombre croissant de jeunes.
Alors, évidemment, l'important, c'est de pouvoir redonner confiance en soi et redorer l'estime de soi-même. Et j'ai beaucoup aimé votre intervention parce que, voilà...
Vous parlez à Cécile Morzadeck.
Oui, à Cécile Morzadeck, pardon.
Et qui est enseignante.
Parce que dans l'idée, justement, faire cette évaluation sans note, avec cette idée du coopératif aussi, hein, puisque c'est sans doute là-dessus qu'il faudrait pouvoir insister, mettre de l'humain, davantage d'humain et de l'étayage en abandonnant finalement des... ces évaluations chiffrées qui sont douloureuses. C'est, oui, notre travail à nous, ça va être de redonner de l'estime de soi quand il n'y en a plus, quand cette estime de soi a été très fragilisée, et je dirais pas non pas par des mauvaises notes, mais par la course...
Parce qu'on parle de bons élèves. Hein.
Oui, on parle de bons élèves, mais la course perpétuelle à des notes toujours plus hautes et qui viennent, comme je le disais tout à l'heure, valider, valoriser un individu, un jeune adolescent qui se cherche et qui essaye d'estimer sa valeur. Et quand on est un peu fragile, ben, l'estimation de sa valeur, ça passe aussi par des notes. Donc l'important, c'est de pouvoir l'aider à se dégager de tout ça. Et voilà, moi j'ajouterais aussi que l'aider à se dégager... de l'évaluation, et je dirais globale, celle des réseaux sociaux, j'en ai parlé tout à l'heure, et cette manière qu'on a comme ça de rechercher validité en permanence au travers de ces outils informatiques, une importance considérable. Alors j'en parle parce que dans l'unité dans laquelle je travaille, eh bien, on accompagne les jeunes pour l'utilisation de ces outils informatiques avec une régulation de l'utilisation de leur téléphone notamment, des réseaux sociaux généralement, un accompagnement. Comment on les aide à utiliser ces outils et comment on les aide à apprivoiser les messages qu'ils reçoivent et ce que leur prêtent leurs camarades, les jeunes qui côtoient.
Mais il y a un paradoxe que je trouve intéressant, c'est que le perfectionnisme n'est pas vu comme forcément un défaut. Et on demande aux élèves d'être préoccupés plus jeunes par leur avenir professionnel en réfléchissant à leur orientation. Ça, c'est une demande académique. Mais aussi, en tant que parents, on serait mal à l'aise avec des élèves qui en auraient rien, ou qui n'ont rien à faire. Ça arrive à des parents et des enfants de leur scolarité.
Absolument.
La fenêtre de tir me paraît un peu étroite. Absolument. Entre être pas assez ou trop préoccupé.
Sauf qu'il y a, quelque chose de manière sociétale qui s'est organisé ces dernières années et qui met le jeune seul face à sa propre promotion. Je lisais un article dans Le Monde qui est sorti aujourd'hui sur Parcoursup.
Je l'ai lu aussi, Soizic Lenevé, oui.
Voilà, avec l'idée que Parcoursup promeut l'auto-entrepreneuriat. Il s'agit d'écrire une lettre de motivation, de faire un curriculum vitae, alors que, alors je vais faire comme le collègue tout à l'heure, revenir quelques années en arrière, on déposait juste des bulletins à l'époque pour venir quémander une place en fac ou en école préparatoire. Donc, on est promoteur de...
Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop acteur de son destin, en quelque sorte. C'est un peu... Étrange aussi comme message.
Il faut être acteur de son destin, mais pas seul. Et pas seul, en face de son TikTok ou autres réseaux sociaux, où on est seul, confronté à la multitude, mais aussi les parents dans un coin et les camarades dans l'autre. On est seul et on se met en avant, on attend les retours de ses proches, de ses camarades, pour savoir si ce qu'on a dit a été validé ou pas, ce qu'on a montré a été validé ou pas, mais on est seul. Et ce tissu social qui est d'une importance fondamentale quand je parlais de risque suicidaire, mais on a bien identifié en France, et c'est l'OCDE qui l'a montré, que ce qui faisait obstacle à la diminution des passages à actes suicidaires en France, qui amène à une situation d'un pays pas très bien placé au sein de l'Union européenne quant aux tentatives de suicide, aux suicides réussis, le tissu social qui est un facteur pronostique majeur est endommagé à partir du moment où finalement on est seul à affronter le monde.
Ultramoderne solitude, est-ce qu'il y a des réponses pédagogiques, Cécile Morzadec, que vous pouvez encore mettre en place et est-ce que ça fonctionne avec les élèves d'aujourd'hui? On a déjà eu quelques indices au début de l'émission, mais qu'est-ce qu'on peut faire là?
Eh bien, j'aime beaucoup ce que vous dites sur le tissu social. Effectivement, je pense qu'il faudrait qu'on envisage à nouveau les classes comme des collectifs apprenants, des collectifs d'élèves qui vont apprendre ensemble. Et c'est pour ça qu'on travaille sur la coopération entre élèves. Donc, il y a toute une gamme de possibles dans ces pédagogies coopératives. On peut faire travailler les élèves en groupe. On peut également organiser des conseils coopératifs, des conseils d'élèves pour que le groupe, en fait, avance ensemble, réfléchisse ensemble, une façon de faire des heures de vie de classe, mais de manière plus coopérative. Et toutes ces choses-là, je pense, en fait, peuvent nourrir ce besoin d'être accompagné par les camarades qu'on voit comme des pairs et pas comme des concurrents possibles pour un futur Parcoursup, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que ce soit très simple à mettre en place, puisque justement, on est dans une société très individualiste. Et donc, créer un fonctionnement de classe coopérative, ça suppose aussi un apprentissage de la part des élèves, dans la mesure où, par exemple, pour donner un exemple, au début d'une année en classe coopérative, lorsqu'on va dire aux élèves qu'ils peuvent demander de l'aide à un camarade, puisque c'est un peu un des principes, eh bien c'est très difficile pour un élève de maintenant de demander de l'aide à un camarade, puisque demander de l'aide, c'est vu comme une forme de fragilité, c'est comme un aveu de faiblesse, et donc en fait il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut qu'on travaille avec eux, ça va pas du tout de soi, et c'est comme si on était complètement à contre-courant par rapport au reste de la société. Mais malgré tout, je pense que c'est des leviers sur lesquels on peut appuyer, et moi je crois qu'il faut qu'on continue dans cette voie-là en tout cas.
Alors on parle d'angoisse de la performance, évidemment j'ai pensé au sport. Vous connaissez le slogan de l'olympisme, plus vite, plus haut, plus fort. Je savais pas qu'on avait rajouté ensemble en 2021. Ça va un peu dans votre sens, Cécile Morzadec. En tout cas, en attendant, la santé psychique des athlètes est devenue un vrai sujet. On l'a vu en 2021 avec les JO, cette fabuleuse gymnaste Simone Biles qui a renoncé à un certain nombre d'épreuves à Tokyo. On l'a vu aussi avec Naomi Osaka qui a aussi renoncé parce qu'elle voulait préserver sa santé mentale. Alors là, c'était juste des conférences de presse, mais du coup, elle a été exclue en 2021 de Roland-Garros. Bref, le sport, on en a parlé avec la philosophe et ex-sportive de haut niveau Isabelle Queval, qui est également professeure des universités.
La question du stress dans le sport et en particulier dans la compétition sportive, elle est souvent liée aux attentes. Alors certes, il y a chez des enfants très jeunes des individus qui sont naturellement portés vers la compétition, vers le jeu, vers le fait de vouloir gagner, tous les jeux qu'on fait, les jeux de société, les jeux sportifs, etc. Mais la plupart du temps, le stress survient dans une attente de performance et une attente qui peut être excessive et qui est celle de l'entourage. Voilà. Et donc, il y a un stress qui est maîtrisé par l'athlète, c'est celui qui permet de se dépasser dans une perspective de maîtriser ce qu'on fait, son sport, sa performance. Et puis, il y a effectivement un stress qui est négatif, destructeur, qui ensevelit l'athlète sous un surplus d'attentes auquel il ne peut pas répondre. Et l'excès conduit aussi parfois à la rupture. En l'occurrence, lorsqu'on traite d'éducation, lorsqu'on s'intéresse à l'éducation, il y a beaucoup de choses qui heurtent l'esprit de l'éducateur et la réalité de l'éducation dans le sport de haut niveau, en particulier l'excès, le surentraînement et la très grande précocité des athlètes dans certains sports, dans une compétitivité mondiale. Je pense à des sports comme la gymnastique, le patinage artistique, le tennis par exemple, qui soumettent véritablement les enfants très jeunes à une sorte de travail. Alors ce n'est pas pour autant qu'il faut bannir la compétition. Il y a évidemment dans la compétition beaucoup d'apprentissage à développer, beaucoup d'apprentissage à expérimenter, en particulier cette expérience de la victoire et de l'échec qui fait partie de la vie. La question du stress lié à la compétition, elle est souvent, au fond, induite par l'environnement du jeune compétiteur, par ses parents, par son entourage, par son entraîneur, par son club. Et puis, d'un point de vue plus général, on vit dans une société du culte de la performance. La performance, elle est à l'école, elle est à l'université, elle est dans les études supérieures, elle est dans le monde du travail et elle est répercutée sur les gens très jeunes avec une obsession de la notation, une obsession de l'évaluation, une obsession du résultat. Les écoles de sport, les académies de sport pour les sportifs de haut niveau partout dans le monde ne sont pas des entreprises ni philanthropiques, ni même parfois éducatives. Ce sont des entreprises de sélection à des fins de très haute performance, souvent géopolitiques, et qui parfois peuvent heurter des idéaux éducatifs qui, justement, viseraient à l'accomplissement de la personne, de l'individu, et non pas simplement à son dépassement ou, comme le disent les sportifs, à son arrachement à lui-même. Donc il y a une éducation à faire effectivement sur un rapport à soi qui peut permettre de trouver un équilibre et des enseignements, y compris lorsque l'échec survient. L'échec, c'est toujours la relation à quelque chose et ça n'est pas l'échec d'une personne. Voilà, c'est le premier enseignement probablement à diffuser. On est en échec dans la relation à quelque chose et à une activité, mais on n'est pas soi-même un être d'échec. Voilà, je crois que c'est le message qu'on peut diffuser sur ce point.
Isabelle Queval, donc philosophe, elle est également directrice du groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires et autrice de Le sport, le diable au corps, publié chez Robert Laffont en 2021. Il y a une question qui m'intéresse ce soir. puisqu'on parle de réussite, on parle d'échec aussi et de peur de l'échec. C'est peut-être ce trou dans nos représentations, Charles Hadji, entre l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'il y aurait? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre entre la réussite et l'échec? Est-ce qu'il y a un entre-deux sur lequel on peut poser des mots?
Tout dépend de la conception que l'on développe de la réussite. Parce que, et c'est ce qu'il y avait de particulièrement fort dans l'extrait que l'on vient d'entendre, le stress est lié aux attentes. Et tout dépend du niveau d'attente. Il peut y avoir excès d'attente jusqu'à la rupture. Alors, il ne s'agit pas de bannir la compétition, mais de lutter contre l'obsession du résultat. Et je pense que entre ce que l'on peut mettre entre l'échec et la réussite, c'est peut-être une autre conception de la réussite et de l'échec. Et ne pas se contenter de concevoir la réussite comme victoire dans une compétition sociale où le vainqueur rafle tout et où l'autre n'est qu'un concurrent qui doit être, sinon écrasé, du moins écarté, mais penser la réussite comme une progression de soi par rapport à soi. Et ceci implique que l'on puisse disposer d'un modèle de l'homme pleinement développé, ce modèle que Kant désignait comme le modèle de l'homme divin que nous portons en nous, la personne pleinement développée, la personne humaine. Et c'est la raison pour laquelle, je le dis un petit peu entre parenthèses, mais c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'essayer de progresser vers une évaluation humanisme, l'humanisme n'étant pas derrière nous, mais devant nous. Et cet humanisme implique une autre conception de la réussite, en prenant pour boussole ce que l'on est et ce que l'on peut faire en se fondant sur ce qui nous a été donné, sur ce qu'on a construit grâce à notre éducation, et en n'acceptant plus, en refusant d'accepter et de subir la conception sociale de la réussite qui nous introduit dans une société totalement concurrentielle. Et si vous me le permettez, je voudrais, pour terminer ce petit point, formuler une hypothèse. Pourquoi nos enfants, des enfants, sont-ils malades du stress? Mon hypothèse est que c'est peut-être parce qu'ils perçoivent, et d'une façon refuse, l'obsession de la performance qui caractérise notre société. Alors que la plupart paraissent accepter cette obsession de la performance, mais en la subissant. Et de ce point de vue, je considérerais les enfants malades du stress comme des lanceurs d'alerte qui nous alertent sur les effets néfastes d'un contexte social, économique et environnemental, contexte essentiellement anxiogène, sous en particulier ce qui a été décrit comme la tyrannie du mérite, et contexte d'une évaluation qui impose partout, tout le temps, enfin trop souvent, je veux dire trop souvent, une logique du concours, alors que les élèves, les lycéens, ne sont pas des personnes concourant les unes contre les autres, mais sont des personnes que l'on doit accompagner dans leur progression vers un certain idéal. Il n'y a pas d'évaluation sans attente et sans référence à un idéal, mais un idéal de la personne pleinement développée, la personne humaine, conforme à ce que l'on est en droit d'attendre dans notre société pour une personne humaine. Alors, j'entends.
Et c'est tout le propos de votre livre.
Mais qu'est-on en droit d'attendre?
Oui. Charles Hadji, je voulais juste passer la parole à Laurent Pinel, parce qu'il y a quelque chose qui me semble intéressant et je voudrais qu'il ait le temps de réagir sur ce que vous avez dit, pardonnez-moi, sur l'accomplissement. C'est un autre projet éducatif qui se dessinerait. Et finalement, c'est aussi ce qu'on souhaite aux jeunes gens d'aujourd'hui. Cet accomplissement, ça pourrait être quelque chose peut-être de moyen. J'ai pensé en préparant cette émission au droit à la paresse de Paul Farg, mais est-ce qu'on peut aussi parler d'un certain droit à la médiocrité? Mais ce mot est tellement horrible qu'on n'a pas envie de défendre
pas le dire,
l'idée qu'on a envie d'être moyen. Et pour pointer un élément de ce que disait Charles Hadji, bah, oui, il y a les lanceurs d'alerte, mais on pourrait aussi... sans se rendre malade, refuser l'évaluation, ça ne doit pas forcément passer par une souffrance personnelle, ça pourrait être un refus et une réflexion plus politique comme celle que développe ce philosophe.
Ça serait mieux, en effet. Alors, être moyen, c'est finalement, quelque part, atteindre une certaine... je dirais philosophie et sagesse quelque part. Et il est certain qu'il est absolument nécessaire d'accompagner nos adolescents vers cette sagesse, alors que tout en eux les amène à vouloir renverser des montagnes à ce moment de leur adolescence où ils sont... Bon, voilà, on leur demande de faire leurs preuves, finalement. Ou en tout cas, la société qui s'inscrit en eux leur demande de faire leurs preuves. Donc, c'est notre rôle en tant qu'adultes et éducateurs, que nous soyons parents, médecins, enseignants, de les accompagner dans cette voie. Mais c'est vrai que je retiens moi aussi cette dimension de lanceur d'alerte. Je le dirais parce que je reçois certains jeunes qui s'inscrivent finalement pleinement et s'identifient à ces... cette souffrance psychiatrique, cette souffrance psychique, s'inscrivant dans des groupes sur les réseaux sociaux où ils s'identifient comme malades et fiers de l'être, ou en défendant la cause des jeunes ou patients souffrant de troubles psychiques. Alors même, on l'a dit tout à l'heure, que voilà, ces angoisses, elles ne s'inscrivent pas non plus dans des pathologies psychiatriques chroniques et pérennes, mais il y a quelque chose d'une revendication chez ces jeunes qui les amène aussi parfois, quelque part, à préférer les lieux d'hospitalisation où, justement, toute la dimension de la performance est mise à l'écart, est mise en suspens. Et voilà, on entend bien ça chez ces jeunes, avec ces revendications très puissantes, en effet. J'ai oublié votre question, du coup. Mais...
Je parlais, en fait, du fait qu'ils étaient des lanceurs d'alerte, mais finalement, à leur corps défendant, parce qu'ils sont... malades, après ils peuvent le revendiquer, mais ils seront quand même passés par une case de souffrance extrême.
Et par une hospitalisation qui est vraiment pas anecdotique d'une vie, dans une hospitalisation qui est parfois assez longue en psychiatrie. En effet, donc c'est malheureusement être lanceur d'alerte, ça a un coût. Ces jeunes patients, en tous les cas, à partir du moment où ils sont, je veux dire, en souffrance et dans l'impossibilité de faire autrement, à savoir d'être un excellent élève, ou en tout cas d'avoir ce degré de performance et ce degré d'atteinte idéal, préfèrent se retirer, en quelque sorte, de la vie sociale, au point d'en devenir des patients et de se réfugier dans des sanctuaires où ils peuvent vivre et passer du temps sans cette charge.
En sécurité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un safe space. Ouais. Mais on parle aussi de cas extrêmes, cette extrémité qui est la phobie scolaire, mais qui existe, hein, qu'un certain nombre d'élèves rencontrent. Cécile Morzadec, et vous avez le mot de la fin. Ce terme de lanceur d'alerte, vous le trouvez pertinent ?
Oui, je le trouve pertinent, et moi je dirais même que c'est un peu grâce à ces jeunes lanceurs d'alerte que nous, profs, on est un peu obligés d'envisager d'autres pratiques pédagogiques ou d'évaluation. Et je pense que, enfin, ça rejoint ce que je disais au tout début, en fait, le projet que moi j'ai mené, c'est parce qu'un enseignant, un collègue, avait ressenti ce stress chronique de la part de certains élèves qu'il a voulu changer ses méthodes pédagogiques. Et donc je pense qu'en fait, on a besoin de ça pour se rendre compte qu'on doit changer. Et c'est vrai que dans les établissements scolaires, là, en cette rentrée, on a beaucoup d'enseignants qui sont très perplexes face au stress qui est exprimé par les élèves. Et je pense que ça nous fait tous réfléchir et que finalement, c'est un peu comme ça qu'on est obligé de se dire comment je peux maintenant changer ma façon d'enseigner. Voilà.
C'est cette réflexion que nous voulions vous proposer ce soir avec nos invités. Je redonne le titre du livre de Charles Hadji, Le défi d'une évaluation à visage humain, dépasser les limites de la société de performance. C'est publié chez ESF. Je prends 15 secondes pour remercier Grégory Wallon qui était à la prise de son, Anna Holweck à la réalisation et Avril Ventura qui m'a aidé à préparer cette émission.